With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence aux joueurs, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, déjà cette semaine, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'épisode qui a sauté, hein, parce que depuis le début de l'année, c'était pas trop ça. Bon, on essaye d'être plus présent, c'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Au programme cette semaine, on va parler des jeux, du reste des jeux, parce que la semaine dernière, on parlait de Super Mario Odyssey, mais il y a deux autres jeux qui sont sortis le 27 octobre, c'est Wolfenstein 2 The New Colossus, et puis Assassin's Creed Origin, et puis on en a sans doute 200 autres sur Steam, mais bon, hein, voilà, ils sont un petit peu, on parlera pas d'eux. Et puis voilà, donc déjà, rien qu'avec ces deux jeux, on a un gros programme. Et puis, j'ai le plaisir pour cette émission d'accueillir deux nouvelles personnes, deux nouveaux chroniqueurs qui ne sont jamais venus dans Silence on joue. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir, Olivier Bénis de France Inter. Bonjour Olivier.
Bonjour Erwan, merci de ton invitation.
Oui, non, c'est trop cool, je suis trop content. Et Mathias Lavorel de No Life. Enfin voilà, tu commences à bosser pour No Life. D'ailleurs, il y a une critique d'Assassin's Creed Origin de ta part qui tourne en ce moment sur la chaîne. On va commencer avec ce qui a fait un peu, ce qui a animé, pas que les jeux vidéo d'ailleurs, hein, et pas, sur, même pas du tout les jeux vidéo cette semaine, mais ça a un lien quand même avec l'univers du jeu vidéo, c'est le harcèlement donc d'une journaliste et puis d'autres personnes qui ont précédé ça, donc le numéro anti-relou, qui était une initiative de deux personnes pour contre le harcèlement de rue en fait. Et tout ça vient du forum 18-25, du forum malheureusement bien connu.
Une partie du forum 18-25. Rappelons-le, c'est important.
Non, mais ça vient du forum 18-25.
Après, géographiquement, on va dire.
Géographiquement du forum 18-25, blabla 18-25 de jeuxvideo.com. Et donc, avec la journaliste Nadia Dam, qui a fait une chronique sur le précédent sujet, donc sur le numéro anti-relou, et à propos du fait qu'il avait été spammé par des internautes. Et donc, elle a fait une chronique sur le forum 18-25. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Elle a été prise pour cible. Et voilà. Et ça a donc... Il y a eu pas mal de... Le forum Blabla 18-25 est revenu sur le devant de la scène d'une manière assez importante.
Oui, et puis d'une manière un peu dialogue de sourds, en fait. C'était surtout ça, enfin c'est surtout ça d'ailleurs encore le problème, puisque ça continue un peu à bouger pas mal de ce côté-là, notamment parce que Webedia, donc qui possède jeuxvideo.com, est en train a priori de réagir, en tout cas on a beaucoup d'indices dans ce sens, parce que bon, ça a quand même fini par avoir un petit rappel de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui a dit qu'il fallait justement gérer un peu plus de modération, qu'il fallait mieux participer ou améliorer en tout cas le fonctionnement du forum, en tout cas s'arranger pour que ce genre de choses ne sortent plus entre guillemets dans le monde réel, quoi. C'est qu'il n'y ait plus de conséquences réelles sur des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on voit pas souvent, et notamment que les cyberharceleurs eux-mêmes ne voient pas, c'est que pour eux c'est ils sont dans une culture d'internet en fait qui est extrêmement forte et qui est sur c'est de la vanne, c'est internet, ça reste du virtuel et ça n'a pas de conséquences réelles. En fait, si ça, enfin, le harcèlement a des conséquences réelles, on s'en rend compte que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur Internet.
Internet est la vraie vie. Hein.
Enfin, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu très souvent cet argument-là revenir depuis une semaine ou deux, de dire ouais, mais c'est que de l'Internet. Non, c'est pas Internet. Internet, ça fait partie de la vie. Oui. C'est quelque chose comme ça. Il y a des vrais gens derrière, y compris derrière des pseudos. Donc voilà, ça nécessite du respect et de l'empathie des deux côtés. qui a en ce moment plus du tout d'un côté, on va dire.
C'est compliqué d'avoir de l'empathie des fois pour des gens parce que donc
c'est difficile.
Là où c'est d'une part c'est pas une première quand ça vient de 18-25, c'est pas une première quand ça vient de la d'une manière plus large de communautés existantes autour du jeu vidéo. On se souvient du Gamergate donc qui avait ciblé Zoe Quinn et Anita Sarkeesian donc il y a quelques années, on est sur des modèles assez identiques hein, de harcèlement systématique, de menaces de mort, menaces de viol, évidemment parce que ce sont des femmes, parce que la thématique qui les fait le plus hurler est le féminisme. Voilà, c'est forcément l'ennemi de ces gens-là, d'une manière assez incompréhensible quand on regarde posément les arguments, hein. Mais il y a
désigné, on va dire.
Il y a une obsession, une véritable obsession, et des dérapages. Mais alors, on peut plus appeler ça dérapage, hein, bien sûr. C'est un mauvais mot. Excusez-moi mais vraiment une.
L'infraction pénale.
Voilà, c'est du harcèlement, hein, et c'est des choses très répréhensibles. Ce qui est encore une fois étonnant, c'est la difficulté pour Webedia, pour jeuxvideo.com. De prendre en compte ce problème, et c'est vrai qu'on a vu les premières réactions hein, venues de Webedia qui étaient dans la lignée des réactions qu'il y a eu dans les affaires précédentes. C'est grosso modo, vous inquiétez pas, on modère, on fait notre boulot, c'est pas de notre faute, on peut pas gérer ce qui se passe ailleurs sur internet. Et en fait, à force, notamment tu l'as dit, avec des réactions politiques, mais aussi et on a remarqué que ça avait été, il y a des événements conjoints, une campagne balance son forum en direction des annonceurs de jeuxvideo.com qui ont,
quand on tape au portefeuille, ça voilà. A tout de suite un peu plus d'impact.
Voilà. Mais quelque chose, il y a ce problème parce que Webedia respectait la loi. La loi, c'est un hébergeur, donc la loi, c'était supprimer les messages à partir du moment où ils en ont eu connaissance, où ils ont été dénoncés. Mais on se rend compte que il y a quelque chose de moral aussi à héberger ce centre névralgique.
Je vais me faire l'avocat du diable pendant une demi-seconde par rapport à Webedia. C'est-à-dire que quand ils disent c'est extrêmement compliqué d'agir là-dessus et on n'a pas de solution miracle, ouais, ils ont raison. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle. Même limite, si on arrive à une solution totalement extrême qui serait de fermer les forums sur jeuxvideo.com, ça ne changerait absolument rien au problème, ça ferait que le déplacer vers un autre endroit.
Je n'en suis pas convaincu. C'est un débat. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, plus ou moins, parce qu'ils sont maintenant ils sont passés en mode modération sauvage. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un sujet peut potentiellement déraper, c'est supprimé. C'est très impressionnant quand on regarde les forums. Et donc, ça crée comme ça, ça assèche finalement aussi un mouvement et un épicentre. Et en fait, le truc, c'est que quand il manque l'épicentre, parce qu'on sait très bien que les systèmes de harcèlement s'organisent sur des discords, sur des forums privés, sur des pages Facebook fermées, sur des choses comme ça qui, elles, sont beaucoup moins infiltrables. Enfin, on peut pas savoir ce qui s'y passe. Mais l'épicentre est sur le 18-25. Et quand l'épicentre, tu le fermes, ça peut résoudre quand même une certaine partie de...
Le truc, c'est que c'est ne pas prendre en compte qu'en fait, il y a moins un problème 18-25 qu'un problème dans le 18-25. C'est-à-dire que le 18-25 a un vrai problème, que justement les gens qui le défendent plus ou moins violemment et plus ou moins maladroitement, il y a des gens de très bonne foi aussi qui défendent ça, mais qui défendent en tout cas le forum, qui défendent pas les propos ni le harcèlement ni rien. Mais le problème, c'est qu'en fait le 18-25 depuis quelques années maintenant, et on le sait parce qu'on a vu des conséquences vraiment politiques de ça, notamment pendant les dernières campagnes sur laquelle moi j'ai un peu bossé, et c'est vrai qu'il y avait des campagnes de harcèlement, notamment de journalistes, qui s'organisaient sur le 18-25, mais vraiment pour des raisons politiques. Et le problème du 18-25, c'est qu'il a été noyauté par certains petits groupes justement plus extrémistes, que ce soit, il y a de tout, hein, y a du racisme, de l'antisémitisme, de l'antiféminisme, parce que comme tu disais, c'est un peu le truc symbolique actuellement, et puis ça s'inscrit un peu dans la suite du Gamergate qu'on a vu aux États-Unis.
Oui, un mouvement masculiniste en fait. Hein,
voilà. Mais qui est un peu un chiffon rouge, c'est-à-dire qu'en fait c'est limite même pas leur vraie cause, c'est-à-dire que c'est des gens qui se font manipuler par d'autres gens en tant que masse de personnes.
C'est exactement passé dans le Gamergate, où l'extrême droite finalement l'alt-right, comme on les appelle, ont complètement noyauté un mouvement.
C'est en fait les attaques contre le 18-25 sont presque un hameçon. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour dire, regardez, on nous attaque, donc c'est une attaque contre la liberté d'expression, c'est de la censure, là, c'est les gens qui pensent que c'est pas la démocratie. Mmh. Et en fait, ça arrive à pousser des gens qui pourraient être de bonne foi à agir de façon extrêmement virulente et violente parce qu'ils ont l'impression qu'on les attaque en tant que communauté, ou ils ont l'impression qu'on attaque leur conception de la liberté d'expression qui est compliquée par rapport au droit français parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas pareil. Donc c'est un problème qui est extrêmement complexe. Il va pas, je pense pas que ça va se résoudre là, hein, très clairement. Je sais que Webmedia bosse dessus, mais bon.
Ça peut avancer.
En tout cas, ça fait réfléchir.
Il faut que ça avance parce qu'il y a quand même des vraies victimes.
Et surtout, il faudrait vraiment, mais c'est, je sais pas s'il y a des membres de forum qui nous écoutent ou pas, mais en tout cas, il faudrait que ça fasse réfléchir dans le forum parce que c'est des gens qui sont en train de se faire avoir globalement. C'est-à-dire qu'ils vont finir par être des victimes collatérales de gens qui les utilisent en fait à d'autres fins.
Bien sûr. Bref, j'allais parler aussi, mais on va essayer d'arriver dans le vif du sujet assez vite. Ces jours-ci est sorti aussi la Xbox One X. Généralement, on parle un petit peu des sorties de consoles. On n'a pas grand-chose à en dire généralement. Et là, c'est une sortie de console améliorée, de console qui existait déjà. Donc, mis à part le fait qu'il n'y a plus de transformateur, là, de grosses boîtes d'alimentation, machin. Voilà, c'est
bien de place.
Oui, on gagne la place. Après, il faut acheter une nouvelle console, ça coûte cher.
Mais ça s'adresse moins aux gens qui ont déjà une Xbox, je pense, qu'aux gens qui hésitaient à craquer ou qui ont une télé 4K et qui ne savent pas quoi en faire. Enfin, voilà.
Oui, parce que quand on a une télé 4K, on ne sait pas quoi en faire. C'est ça le truc aussi. C'est ça. C'est pour les gens qui ont acheté une télé 4K et qui se disent « Ah, mais oui, mais ça ne sert à rien. Tiens, si j'ai acheté une console qui allait avec. »
Je ne sais pas s'il y a des gens très majoritaires en France, mais je ne suis pas sûr. Je ne dirais pas dessus.
On verra. Qui a un lecteur Blu-ray 4K aussi.
Aussi.
Mais voilà. Ouais. Donc ça sert aux gens qui se demandent à quoi ça sert le 4K. On verra. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, le com des coms de la semaine dernière où on parlait de Super Mario Odyssey. Sur Super Mario Odyssey, Roger Hanin nous dit c'est les pseudos, hein, c'est les pseudos, excuse-moi. Je suis super partagé. Enfin non, je sais très précisément ce que j'en pense. J'adore, mais c'est tellement pas assez. Parce que fondamentalement, c'est hyper costaud. Le gameplay est parfait, le rythme est diabolique. Mais c'est le jeu de la frustration, parce que c'est une succession de shots de 2-3 minutes de bonheur. On a une sensation de picorage permanent, une sensation de démo perpétuelle. C'est un peu comme manger des nachos au guacamole. C'est hyper satisfaisant, mais il faut en rajouter en permanence. Alors que moi, je voulais du poulet basquez. Ce que proposaient les précédents Mario 3D était plus adapté à nos cerveaux reptiliens, demandant de la récompense après un dur labeur. Enfin, aussi Shanghai Max, parce qu'on parlait aussi d'un autre jeu. Merci pour la découverte d'Enterre-moi mon amour, ça donne envie. Oui, on parlait de Enterre-moi mon amour la semaine dernière, et ça donne envie, et je vous conseille d'y jouer. Et enfin, on parlait aussi, et là c'est Cytoplace, on parlait de Golf Story. Golf Story a été une excellente surprise. À la base, je ne suis pas très fan des jeux de golf. Moi aussi, j'adore les jeux de golf. Et pourtant, j'ai vraiment accroché, d'abord parce que ce n'est pas vraiment un jeu de golf. Ah, c'est peut-être pour ça. Le jeu a récupéré les codes des RPG 16 bits. Le héros est un ado qui se réveille dans son lit au début du jeu et décide qu'aujourd'hui, il va suivre les traces de son père à devenir un héros, et donc un golfeur. Le monde est découpé en zones qui se déverrouilleront progressivement au fil de la quête principale, et quand on arrive dans une nouvelle zone, on commence par en faire le tour pour discuter avec tout le monde et récupérer les quêtes, et on passe chez le marchand de la zone pour upgrader son matériel. Rien n'est sérieux dans ce jeu, et surtout pas les phases où on joue vraiment au golf, avec des zones spéciales ou de danger, ou d'où sortent les animaux qui vont gêner les tirs, voler les balles, ou au contraire permettre des rebonds improbables. Et enfin, les événements et les rebondissements du scénario sont très drôles, très what the fuck, comme quand on découvre même que les invasions de morts vivants peuvent se résoudre avec des balles de golf. Voilà, et c'est vrai que en fait je suis assez accro à Golf Story. Et c'est très très bien pour le métro, pour les transports et tout ça, c'est parfait, Golf Story.
C'est un jeu qu'il faut jouer, enfin auquel il faut jouer, surtout si on n'aime pas les jeux de golf.
Oui.
Parce que c'est d'autres, ça n'a rien à voir.
Ouais, mais moi j'aime bien les jeux de golf. Ouais, mais ça marche aussi. Mais parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bons jeux de golf aussi, hein, je trouve. C'est ça, voilà. Allez, on commence donc avec le retour de Blasco. Hein, le Blasco, le Barjo, c'est ça ?
C'est ça.
Blasco, le Barjo, dans Wolfenstein 2, The New Colossus.
Allumez le feu de la révolution.
Tu veux terroriser les nazis ? Tu veux foutre un joli petit bordel ? Alors tu t'adresses à la bonne personne. S'il te reste encore un peu de jus pour buter du nazillon, j'ai un plan qui va mettre un coup de fouet à toute la nation.
Alors c'est parti pour le spectacle.
Ça
un déluge de balles qui s'amoncelle. Alléluia!
J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur.
Oui, carrément! Ça a l'air...
Wolfenstein 2, The New Colossus, de la suite de Wolfenstein, The New Order, qui était vraiment le vrai reboot de cette licence mythique, cette licence qui a introduit le jeu de tir en vue subjective par ID Software dans les années 90, j'ai plus la date, 92, 13 de mémoire. Bah oui, parce que je sais pas vous, mais moi, je me rappelle encore de ce programme distribué en shareware à l'époque, ouais. Parce qu'il y avait les premiers niveaux gratuits, et puis il fallait acheter, hein, les niveaux suivants. Mais ça a été une surprise incroyable, et puis surtout, et là, ils ont gardé cet ADN, on bute du nazi, hein, finalement, c'est ça, Wolfenstein.
Un bon nazi
est un nazi mort.
Évidemment.
Voilà, hein, on est d'accord.
C'est l'argument principal du jeu. Hein,
on est d'accord.
Enfin, ça a été vendu comme ça, en tout cas.
Bon. Et encore plus cette année. Alors, bizarrement, peut-être un lien avec l'actualité, d'ailleurs.
Alors, eux disent que non. Bon, en tout cas, ils essaient de ne pas, justement, faire trop de liens avec l'actualité, mais par contre, ils ont vraiment misé toute la com' du jeu, ouais, sur le côté « on va buter des nazis », quoi.
Et oui, parce que dans les jeux vidéo, il y a des gens où, en fait, on se pose pas trop de questions quand, un, on bute des monstres, quand, un, deux, on bute des aliens, et qu'en 3, on bute des nazis. Hein, voilà, c'est un peu au-delà, ça, forcément, ça crée débat. Fut un temps, à la grande période post-2001, on a commencé à buter des gens venus de pays moyen-orientaux. Ouais. Et là, on sentait qu'il y avait quand même un gros problème. Hein.
Mais le nazi... Pour un jeu qui serait avec des monstres zombies nazis ou un truc comme ça,
ça c'est vu. Non, ouais, ça s'est pas vu.
Peut-être, oui, si, ça s'est
vu. Je suis sûr. Patrick Hélio n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je suis sûr que lui saurait s'il y a eu un jeu où on bute des monstres aliens nazis. Mais c'est pas impossible.
Non, je pense que... Défend, ça se
non, défend. Ça se défend. Il y a du concept. Bref, Wolfenstein 2, The New Colossus, Olivier.
Comme tu disais, c'est la suite du premier, donc si vous avez fait le premier, vous allez très certainement aimer, puisque c'est une suite vraiment au sens premier du terme. On est à la toute fin du scénario du premier et on enchaîne directement avec, enfin ça démarre vraiment quand le premier est terminé, quoi. Donc on est sur un scénario qui se poursuit. C'est le gros avantage et c'est un peu l'inconvénient du jeu, c'est que du coup on a plus cet effet de surprise que moi j'avais eu vraiment, je m'étais pris vraiment une claque par rapport à ça, de The New Order, qui était comme tu disais, c'était l'énième tentative de relancer cette franchise qui avait vécu de meilleures années à l'époque, qui avait des reboots un peu laborieux ou qui en tout cas marchaient pas très bien, même s'ils étaient pas mauvais. Et là, il y a eu cette idée géniale de faire un reboot en misant sur un argument qui est l'argument de la dystopie, c'est-à-dire de dire de l'Uchronie. On part sur donc Béji Blazkowicz, qui est le héros des Wolfenstein précédents. On est quasiment à la fin d'un Wolfenstein original. Et il se prend, je sais plus, un obus ou un truc comme ça, et il se retrouve dans le coma pendant 10 ans. Et sauf que, quelque part, comme il est pas là, la timeline a changé. Ouais. Voilà, c'est Retour vers le futur 2 avec Hitler à la place de Biff Tannen, quoi. Et la timeline a changé et les nazis ont gagné, et donc les nazis ont envahi le monde, quoi, en toute logique. Et en plus, ils ont des robots géants, parce que pourquoi pas.
Ça peut être un slogan, hein, de Wolfenstein, mais parce que pourquoi pas.
Voilà, c'est à peu près, ouais, quasiment tous les niveaux sont un peu dans cet esprit-là. Il y a un niveau post-apocalyptique, parce que pourquoi pas. Il y a un niveau dans un sous-marin, parce que pourquoi pas. Enfin, ouais, bon, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un excellent FPS. The New Colossus, c'est un très bon FPS à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, je remonte pas jusqu'à Doom, je pense plus à des Half-Life ou des Half-Life 2. C'est qu'on a toujours cette sensation d'être dans un truc assez scénarisé, mais qui est un peu un couloir, un peu artificiel, mais avec suffisamment de rebondissements dans l'action et de choses comme ça pour qu'on n'ait jamais vraiment l'impression d'être totalement prisonnier du truc. Ouais. C'est qu'on on a cette fausse impression de liberté qui est vite recadrée, mais qui est sympa. Enfin, c'est un FPS, c'est très bourrin, ça demande quand même de maîtriser un peu ce type de jeu-là pour avancer, ouais, quoi, parce qu'il y a des passages qui sont un peu chaud, quoi, mais on passe un bon moment. Enfin, si on aime bien ce genre-là, c'est un bon truc. Moi, je dis juste la petite réserve sur ce côté, le côté dystopie, on a l'impression de déjà vu, quoi. C'est, ouais, oui, bon, cette fois, c'est aux États-Unis, pourquoi pas, mais voilà, on l'a déjà vu dans d'autres jeux aussi, mais ça fonctionne.
Il y a une impression, de toute façon, on va pas se cacher, un FPS couloir, quel que soit quasiment son univers, provoque mécaniquement une impression de déjà vu. Il y a très peu de, on va pas révolutionner le jeu. Il y a peut-être le reboot de Doom dernièrement qui avait un peu rebouleversé en revenant au cœur de ce qu'on pouvait appeler le fast FPS, enfin un truc complètement hystérique qui arrive de partout avec du mouvement, avec ça qui avait redéfini quelque chose, je trouvais. Mais dans le reste, le FPS couloir, c'est vrai qu'on est sur de l'univers connu.
En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est le même éditeur hein, pour Doom et pour Wolfenstein, et ils ont réussi à rebooter la franchise dans les deux cas en utilisant à chaque fois une méthode complètement différente. C'est-à-dire que Doom, ils ont pris la méthode, on va revenir vraiment au basique, il y a plus de scénario, il n'y a plus rien, enfin vraiment un truc en filigrane, et c'est juste, on va défoncer du monstre de façon hyper violente. Et Wolfenstein, ils ont fait, ok, là par contre, on va prendre la franchise qui a l'air d'être la plus débile sur le papier, genre je suis un gentil qui bute des nazis, et on va essayer de la rendre attrayante d'un point de vue scénario et surtout développement de personnages, que ce soit dans The New Order ou The New Colossus, les personnages sont super quoi. Et il y a des seconds rôles incroyables dans les deux jeux. Et c'est,
Avec quand même un effet que je trouve assez radical dans la VF, qui est la voix hein, de Blasco, qui est Patrick Poivet, donc la voix officielle de Bruce Willis. Et c'est vrai que ça apporte tellement. Moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose.
Alors, je vais pas être d'accord avec ça. Je suis un grand fan. Hein, vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et je sais pas. Pour moi, ça a pas marché.
Ah ouais.
Ça m'a même gêné par moments, ce qui fait qu'au bout de 2-3 niveaux, je suis revenu à la VO. Voilà,
oui.
Paradoxalement. Et pourtant, vraiment, j'étais parti sur ah putain, c'est super, en plus, c'est lui qui fait la voix. Et
non.
Je sais pas. J'ai eu une sorte de blocage dans ma tête, c'est que c'était pas sa voix. Pour moi, c'était Bruce Willis, et du coup, j'y arrivais pas.
C'est une ambiance qui résonne, en fait. C'est ce mix entre une action débridée, une sorte de recul par rapport au sujet lui-même, et en même temps, un sérieux général, parce que quand même, il faut survivre, il y a une tragédie en cours, il y a ce genre de choses. Et je trouvais que cette voix-là allait bien avec les enjeux qui était derrière. Après, autre élément quand même qui est super important dans ce Wolfenstein 2, c'est qui est même étonnant en 2017, c'est pas de multi. On est sur un jeu solo, on est sur du old school.
Est-ce que la thématique fait pas que c'est impossible de faire du multi avec toi? Est-ce que tu dis j'incarnerais les nazis et toi tu incarnerais ce serait enfin peut-être que
Call of Duty hein, Call of Duty de cette année hein. World War 2,
c'est un côté risqué. Ouais. C'est un côté, c'est casse-gueule, surtout comme on disait, la com du jeu a été vachement axée là-dessus, sur le côté vous êtes le gentil, eux sont les méchants. Je pense que c'est compliqué quand on a vraiment axé le jeu là-dessus de dire et puis au fait au passage vous allez jouer les mecs qu'on vous présente comme les pires déchets de l'humanité, vous allez les jouer quoi.
Je sais pas si c'est du divulgachage, je crois que c'est un peu le mot ici, mais
on l'a jamais dit, mais c'est très bien.
Et je crois qu'il y a une autre faction, enfin j'en suis sûr, mais il y a une autre faction, est-ce qu'on en parle ou pas, qui pourrait aller dans le sens de ça, c'est encore plus compliqué parce que il y a pas que des nazis, il y a des gens avec des capuches et c'est pareil si tu dis j'ai trois factions, j'ai un soldat, des nazis et puis du Ku Klux Klan.
Après les FPS se sont rarement occupés de la scénarisation des modes multi. Donc,
non, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, est-ce que ça pourrait pas être un prétexte? On peut imaginer très rapidement que ça déborde, qu'on dise « oui, ce mec-là jouait à Wolfenstein 2, tu vois de... ».
Je m'en bats déjà le coup. Ça me rappelle un jeu comme ça qui était sorti dans les années 2010, peut-être un petit peu avant, qui s'appelait American Army. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était ce jeu de recrutement de l'armée américaine, qui était un jeu multi, donc un FPS multi, et donc il servait de recrutement à l'armée américaine. Et donc en fait, on jouait des Américains et on tuait un des terroristes, etc. Sauf que le problème, c'est qu'un jeu de l'armée américaine, tu ne pouvais pas proposer aux joueurs de jouer le terroriste, hein, c'était pas possible. Donc en fait tous les joueurs jouaient les Américains. C'est juste que le skin de leurs ennemis, donc des autres joueurs, quand toi tu étais Américain, et ben tu voyais des terroristes. Ce qui aboutissait à la morale finalement, on est tous le terroriste de quelqu'un. Et donc bon, ce qui était un peu limite quand même, mais c'était, donc ils auraient pu faire ça en fait, ils auraient pu déguiser l'ennemi en Asie.
Bref. Et juste pour finir avec ça, Fast FPS, est-ce que on peut dire c'est pas vraiment console, c'est plus PC
ou ce n'est pas du Fast FPS, hein.
Du coup c'est plus Doom PC et console.
Pour l'avoir testé sur les deux, moi je suis très clavier souris sur les FPS, donc j'ai du mal en fait à faire la transition, et je me suis un peu forcé à tester les deux, et ça passe au joypad, ça passe même pour quelqu'un qui est pas trop habitué, ça se fait. Par contre, faut vraiment pas hésiter à baisser le niveau de difficulté si vous prenez sur console et vous êtes pas habitué, parce qu'il y a des moments qui vont quand même
Alors moi je l'ai pas vu, hein, mais peut-être que je l'ai pas vu et c'est en cours, mais j'ai pas l'impression qu'il y a l'aide à la visée est pas terrible, hein. Enfin, ou il y en a pas, ou elle est pas terrible, enfin, en tout cas moi je tire à côté, donc
je ne l'active pas, moi.
Du coup, c'est vrai que c'est parfois, vu que c'est quand même assez sombre. J'avais une question d'ailleurs. En fait, ça n'a rien à voir. J'ai du hors sujet, excusez-moi. Mais est-ce que vous savez, quand on lance les jeux pour la première fois, il y a toujours cet indicateur de luminosité où il faut mettre pile au moment où on ne voit plus le 1. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous mettez pile au moment où on ne voit plus le 1, ou vous mettez un petit peu plus clair quand même parce que vous avez peur d'être dans le noir?
Déjà, moi, je stresse parce que je suis quelqu'un qui veut bien faire, et quand on me pose cette question-là, c'est d'enfer, parce que je me dis, est-ce que je suis bien?
Sur la est-ce le que gamma,
c'est
là.
Ouais, mais pour moi, c'est d'enfer, ce truc, parce que finalement, j'ai pas l'impression que ça change.
On est d'accord, hein. Moi, j'ai toujours peur de mettre trop noir et de pas voir les ennemis. Tu mets toujours un petit peu plus clair, mais on est d'accord.
Ah ouais. D'ailleurs, j'aimerais.
Moi, je pense qu'il y a un débat. Il faut en parler.
Il faudrait créer une hotline avec un FaceTime où tu peux contacter quelqu'un, lui montrer et lui dire est-ce que j'ai bon.
Est-ce que toi aussi tu vois le truc?
Est-ce que
c'est
ça? Oui, c'est ça.
Est-ce que vous voyez le chiffre? Tu poses sur Twitter à chaque fois. Oui. Non, c'est pas mal. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Mais bref, c'était.
C'était un sujet important aussi.
Non, mais ouais. Non, on n'est pas dans du fast FPS. On est vraiment. Après.
Scénarisé, clairement.
Juste, personne ne parle de... Le scénario, quand même, est-ce que quelque part, est-ce que c'est pas casse-gueule, est-ce que c'est est-ce qu'il faut dépolitiser ce type de jeu, est-ce que c'est bien justement d'afficher tout ce qui concerne l'imagerie nazie et d'en jouer, est-ce que ça dédramatise, est-ce que, bon, après c'est un autre débat, mais
non, mais bon, alors moi je pense que on peut établir une règle: on a le droit de buter des nazis. Voilà. À partir de là, on peut parler de tout. Moi, ça ne me dérange pas, on peut lancer tous les débats. Je pense que c'est...
Le truc, c'est que... C'est même au-delà de ça, c'est que... C'est dans un sens... Non, si, il parle un peu allemand.
Oui, mais ils sont peut-être des nazis.
Il y a un peu le côté... On peut buter des nazis en temps de guerre quand ils ont envahi ton pays. C'est plus ça, en fait. L'idée de Wolfenstein, c'est quand même pas on va buter des nazis. Enfin, on va pas chercher les nazis chez eux, au saut du lit, en disant salut, qu'est-ce que tu penses de la Shoah.
Si effectivement, on propose ça.
Là, c'est les mecs débarquent quand même, lancent des bombes atomiques. Enfin, voilà. Il y a un petit côté légitime défense, légèrement quand même.
Oui, complètement. Ce sont les mauvais. Bref, Wolfenstein 2 The New Colossus qui est sorti, qui est quand même une expérience de jeu. Hein. Après, c'est un jeu on a un contrat avec ce type de jeu. Hein. Il nous promet quelque chose, il nous l'amène. On va pas lui demander beaucoup plus. À noter quand même, parce que je vois les images qui tournent derrière nous, un niveau d'introduction assez mythique. Enfin, que moi j'ai trouvé quand même très intéressant de FPS en fauteuil roulant.
Je suis plus mort sur le niveau d'introduction que sur tous les autres réunis, je crois. J'ai pas arrêté de mourir. C'est pour ça que je conseille vraiment. Faites le premier avant, parce qu'il faut vraiment encore avoir un peu l'habitude du gameplay du truc pour en plus se rajouter littéralement ce handicap, hein, voilà, très clairement. C'est un cauchemar, dans un sous-marin avec des escaliers partout avec un fauteuil roulant.
Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait tout le jeu comme ça.
Mais là, ça aurait été une superbe pub pour l'accessibilité des lieux publics.
Exactement,
C'est toujours un peu compliqué pour les personnes handicapées. Donc voilà.
Allez, on va s'attaquer peut-être au gros morceau, peut-être... Qui sait, à un des plus gros morceaux de cette fin d'année. Il y aura aussi peut-être débat ou pas, je ne sais pas. Assassin's Creed Origins.
If you do not act, this country will burn to the ground.
Assassin's Creed Origins après un an d'absence. C'est là pour la première fois depuis 2007. Non, pas la première fois d'ailleurs, non? Il y avait eu, si, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Oui, non, donc pour la première fois depuis 2007, depuis Assassin's Creed.
Deux ans,
mais non. Non, c'est Syndicate.
Syndicate.
Tu vois, en fait, il y a deux Assassin's Creed. Hein. Il y a Révélation et Syndicate, on s'en rappelle jamais. Hein, voilà. Ah, mais oui. La Turquie et Londres, bon, on s'en rappelle jamais. Hein, on avait déjà eu, je crois, ce débat. Et on était arrivé à la conclusion, d'ailleurs, je crois, il y a deux ans, que Syndicate ferait partie de ce jeu dont on se souviendrait pas. Et là-dessus, je pense qu'on est arrivé à une conclusion un peu comme ça. Bref, après Syndicate, il y avait besoin d'une pause. Je pense que tout le monde était d'accord. Il y avait un concept qui s'essoufflait, il y avait... Et même, la question pouvait se poser, est-ce que Assassin's Creed n'est pas arrivé au bout de quelque chose? Voilà, on était à l'époque victorienne, on avait fait quand même beaucoup d'époques historiques. Est-ce qu'on n'était pas arrivé au... Et avec quelques indices qui pouvaient quand même laisser penser que Watch Dogs était une évolution récente de cet univers-là, voilà. Donc du coup, est-ce qu'on n'était pas arrivé au bout du concept? Mais
je sais plus qui disait il y a un an, je crois, sur Twitter, que de toute façon la prochaine étape maintenant dans Assassin's Creed, si on continuait sur les époques, c'était Assassin's Creed. Je suis Hugo manifestant dans les manifs du CPE en 2007 et je dois renverser le pouvoir du capital. Enfin, ouais. Si on est arrivé, ça s'est soufflé un peu, c'est vrai qu'on était sur un truc ronronnant. Moi, le côté ronronnant me dérange pas forcément. C'est-à-dire que moi j'ai un côté un peu casanier en jeu vidéo aussi. J'aime bien qu'on me surprenne, j'aime bien qu'on me fasse des nouvelles choses, mais j'aime bien aussi le côté, tous les ans, j'ai un jeu qui va être à peu près le même jeu, mais avec des graphismes un peu plus jolis, et puis avec une autre ville, et puis avec un autre truc, et puis je retrouve mes habitudes, et puis j'ai pas besoin de faire un tuto parce que les boutons sont exactement les mêmes qu'avant. Donc moi j'aime bien ça, mais c'est vrai que même là, enfin Syndicate ça s'est soufflé un petit peu, Unity ça s'est soufflé pas mal aussi. Et pourtant Dieu sait que Unity c'était le jeu que j'avais fantasmé pendant longtemps en me disant le jour où ils font un Assassin's Creed à la Révolution française, ça sera super et tout, on sera dans Paris, et en fait je me suis un peu ennuyé quand même. Mais disons que ça restait des bons jeux, des bonnes productions, parce que forcément quand on met autant de moyens et autant et puis de l'envie aussi, enfin c'est que c'est des gens qui connaissent leur métier et qui ont envie de faire vivre un truc, et donc ça fonctionne, mais ça fonctionnait juste, ça avançait quoi.
Adias.
Moi je trouve que il partait un peu dans tous les sens sans vraiment aller au bout, et il y a des choses assez intéressantes justement avec Unity. Par exemple, il y avait une polémique, je sais pas si vous vous souvenez, avec Mélenchon et puis je sais plus l'autre,
Corbière,
en disant qu'est-ce qu'ils ont fait de la Révolution française, c'est pas ça du tout et tout. Et c'était quand même un des credos de la série, de dire on fait beaucoup de recherches historiques et c'est jamais assez, en fait, tu te rends compte, et assez Assassin's Creed. Wow. On rentre dans une boucle Assassin's Creed. Et en fait, là, avec Origin, ils nous ont promis un mode de jeu qui va sortir début de l'année 2018, où on va pouvoir visiter l'Égypte et apprendre, faire un apprentissage de l'histoire, des choses comme ça.
On va en venir à Assassin's Creed Origin, mais toi, arrivé à Syndicate, tu avais aussi cette impression
complètement,
de pause nécessaire, d'arrêt.
J'avais lâché, en fait. Je suis tombé dans Assassin's Creed au tout début, comme pour moi, ça a été le même choc, parce que je suis beaucoup plus vieux que ce que je ne parlais. Donc mon premier choc, c'est vrai, c'était Tomb Raider, vraiment, le premier Tomb Raider, ça avait été un truc de fou, et j'avais retrouvé ça avec le Assassin's Creed 2, en disant, c'était incroyable, quoi, vraiment.
Complètement, mais le parallèle est assez évident, enfin, dans une sorte de sidération comme ça par rapport à...
Et j'ai suivi le même process qu'avec la série Tomb Raider, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les bugs, les choses, en fait, j'y arrivais plus, quoi. Alors, j'avais pas le même affect que toi, qu'Olivier, avec la série, et à un moment, je disais, je veux pas refaire toujours tout ça, tu vois. Et vraiment, je m'en étais détourné. Et quand il y a eu l'annonce en 2016, je crois que Guillemot a dit stop, on arrête le cycle.
2015, pour la sortie de Syndicate, ils ont annoncé dès 2015, je crois qu'ils faisaient une pause.
Vraiment sur. C'était lié aux consoles next-gen aussi, je crois qu'ils disaient vraiment, on va vraiment développer maintenant pour la next-gen, enfin la PS4 Pro, la Scorpio à l'époque, comme on le.
Il y avait eu quelqu'un d'Ubisoft qui avait déclaré, c'est dommage, j'ai pas retrouvé le nom. En 2014, là pour le coup, qui avait dit tant que les gens achèteront du Assassin's Creed, on sortira un épisode tous les ans. Et
les gens ont entendu ce
message. Mais voilà. En fait, je trouvais ça, c'est, pour moi, ça, c'est le genre de remarque qui est perturbante. C'est-à-dire qu'on le sait, mais le fait de le dire, de l'assumer, de dire, en fait, c'est vraiment un produit commercial qui... Oui. qui et je pense que, du coup, c'était la limite de l'exercice, quoi, et que...
Alors, voilà. Alors oui, mais complètement. Moi, je me souviens de la sortie de Syndicate, c'était le premier Assassin's Creed depuis tous les Assassin's Creed, on va dire, canoniques. Hein, comment on a eu un débat, lesquels sont canoniques, lesquels ne sont pas, mais disons, les grands Assassin's Creed annuels, Syndicate était le premier qui ne m'avait pas enthousiasmé avant sa sortie. Voilà, même les autres, que ce soit Black Flag, Assassin's Creed 3, alors après, y jouer était autre chose, mais moi, je frémissais à Unity, bon, moi, c'était pas la peine, c'était à Paris, on était un peu comme des fous au moment où
les... côté recréation historique, oui, voilà, c'est ça. Qu'on connaît. Mais, ou...
Ah, puis c'était chez nous.
Mais oui, ouais, c'est très chaud. Exactement, ouais. Mais ça comptait aussi. Et Syndicate était pour la première fois, bon, ouais, ok. Bon, mais ça sort, je regarde. Ouais,
j'étais très excité par Syndicate parce que je suis très fan de séries, et notamment Peaky Blinders, où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créateurs qui se mettaient dans cette période-là, et Jack l'Éventreur, tout ça, c'est quand même... après, bon, il faut être fan de Londres, il faut... Mais malgré tout, ça n'a pas... J'avais pas...
Donc, deux ans de pause. Et Assassin's Creed Origins. Alors moi... Je sais pas vous, mais je l'attendais pas plus que ça quand même. Enfin, je sais pas. J'étais
tout pareil.
Tout pareil.
Pour te dire même, je l'ai demandé. Enfin, j'ai obtenu le jeu en fait pour l'émission. C'est qu'au départ, oui. Je m'étais dit, nouvel Assassin's Creed. Est-ce que ça vaut le coup que je le teste? Est-ce que pour silence on joue? Puis du coup, donc tu m'as contacté, je me suis dit bon bah. On va le faire.
Voilà, ok, bien obligé.
Ouais, c'est quoi. Et puis en fait, non. Voilà, du tout.
Mathias, t'avais le...
Pas du tout.
Non, t'es fan de l'Égypte, et donc non, t'avais pas envie.
Alors, fan de l'Égypte, oui, mais c'était pas un truc qui m'accrochait plus que ça pour les raisons évoquées, c'est-à-dire en disant, ok, encore un. Et les promesses, j'ai toujours un peu de mal avec ça quand on dit... On arrête pour les joueurs, alors qu'on sait très bien qu'on arrête parce que ça fait plus de pognon et il faut qu'on trouve un nouveau système pour remettre ça sur les rails. Et du coup, j'avais vraiment le côté un peu faux rebelle de dire « Oula, je m'en bats
donc,
pas ».
Donc cette longue intro, hein, parce qu'on parle des jeux d'avant, etc. Mais c'était important parce que c'est Assassin's Creed, c'est depuis 2007, c'est quand même quelque chose qui a marqué la décennie de jeux vidéo. On en arrive à Origins, donc 10 ans après le premier Assassin's Creed. Et Mathias, donc cette première impression, c'est quand la prise en main, les premières heures, parce qu'il faut quand même quelques heures pour se rentrer dedans.
Ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que tout début, j'étais paumé. Je dis qu'est-ce que c'est que ce scénario? Je comprends que dalle. Ouais. Alors peut-être je suis pas fan de l'Égypte antique et du coup les noms, les choses, il y avait quelque chose d'un peu perturbant. Et puis ça s'emballe tout d'un coup au bout de quelques heures et là ça devient fascinant quoi. C'est un peu ce que j'ai ressenti avec Red Dead Redemption, c'est-à-dire que ce qu'on dit de partir à cheval, d'aller dans l'univers, là c'était exactement ça. La philosophie du jeu, en plus, va vraiment, je trouve, dans ce sens-là, parce qu'ils ont mis en place un truc qui n'est pas si con que ça, c'est de mettre la quête principale, en fait, les jalonner de niveau d'expérience. C'est-à-dire que pour accéder pour avancer dans l'histoire principale, il faut avoir un certain niveau d'expérience. Et pour avoir ce niveau d'expérience requis, il faut faire des quêtes secondaires, il faut se balader, il faut aller tuer de la bête sauvage pour améliorer son inventaire, ces choses comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait avec vraiment beaucoup de plaisir et moi ça je l'ai ressenti mais voilà.
Olivier ?
À peu près pareil en fait sur la première réaction, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression en commençant à jouer que c'était une réponse en jeu des développeurs à cette question ouais vous renouvelez plus, vous changez pas les choses et tout. Et là j'ai vraiment eu l'impression sur la première heure de jeu, les deux premières heures de jeu, il y a un côté grosse claque genre ah ouais vous voulez que ça change ? Ah bah vous allez voir. Et on a l'impression d'être balancé dans le grand bain tout de suite, c'est-à-dire que même au niveau du scénario, il n'y a pas vraiment d'intro. C'est-à-dire qu'on arrive, on est déjà en train d'exécuter un mec,
on fait « waouh, waouh, waouh ». Moi, j'ai cru que j'avais passé une cinématique sans faire exprès. J'ai cru que j'avais trop appuyé sur Start et que j'avais passé la cinématique. Mais
c'est ça. En fait, on est où? Pas du tout. Et puis même après, ça continue. Il y a un côté grand 8 là-dessus au départ, ce qui est dès que tu commences à t'habituer un petit peu à un truc, il fait ouais, d'accord, bon, on va changer ça, ok, si tu veux. Puis on va rajouter ça, puis on va rajouter ça. Et puis là, il y a des bêtes sauvages, là, faut côté des trucs. Enfin, c'est perturbant, c'est-à-dire qu'au départ, alors je reviens à mon côté pépère, machin truc et tout, moi j'aimais bien Assassin's Creed à l'ancienne, et j'arrive, je fais « qu'est-ce qu'ils m'ont fait, quoi ?» Tu vois, je sais que notamment, il y a une des premières quêtes qui est dans une grotte où on doit se battre contre quelques bandits, mais j'ai recommencé 10 fois, quoi. J'y arrivais pas.
Assassin's Creed, je crois que le pire, c'était le 3, comme ça, où tu tapotais les boutons et tu faisais des combos hallucinantes avec 12 personnes. Ah oui, c'était 12 personnes autour, blablabla, bla, 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 bla. Allez, c'est pas la peine, vous êtes morts, coucou.
Je l'ai mal vécu au début en me disant pourquoi on m'enlève mes super pouvoirs dans Assassin's Creed, genre pourquoi je peux plus parer, pourquoi je peux plus sauter, éviter les gens, faire des cascades, tout ça. Et puis après, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, certes un peu brutalement, en fait, c'est hyper exaltant. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté... déjà, l'air de jeu est gigantesque. Enfin, il y a...
Je dis pas trop souvent que c'est beau, mais... Enfin, parce que c'est plus un critère quand même. Il y a beaucoup de jeux qui sont graphiquement, esthétiquement des réussites. Mais là...
C'est beau techniquement, c'est beau au niveau de la recherche, des environnements, des décors, des costumes et tout, mais tout est...
Les régions entre détail, les villes, Alexandrie, Gizeh, enfin bon, c'est...
Là où ils ont... Il y a beaucoup de choses où ils ont été très bons, de mon point de vue, c'est... Tu dis Alexandrie, par exemple, c'est une grosse ville. Donc qui est vraiment chargé en personnages, en animaux, le travail sonore est incroyable. C'est-à-dire que c'est jamais ni trop ni pas assez. On est vraiment à chaque fois sur la bonne limite pour. En fait, on y croit. C'est-à-dire que à aucun moment t'es sorti de l'univers et les sensations que tu as par quelque chose qui est vraiment. Tu dis c'est n'importe quoi. Après, il y a quand même. Ça reste Assassin's Creed. Il y a du bug. Si t'en veux, t'en trouves vraiment beaucoup.
C'est tellement généreux, en fait. Je trouve tu t'y fais presque pas attention. En fait, il y a des moments où tu te dis ah ouais, tiens, bon, ça c'est un peu malheureux, mais. Mais en même temps, enfin, c'est Noël, quoi. Il y a 70 paquets en bas du sapin et tu vas pas dire il y en a un qui est mal emballé, quoi. Enfin,
je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment eu une impression. Quand tu disais les impressions de déjà vu et tout ça, ils commençaient hein, depuis quand même quelques années à avoir le côté ouais, c'est un jeu Ubisoft. Vous savez, le jeu Ubisoft, l'open world avec 12 milliards de trucs sur la carte et une sorte de répétition entre du Far Cry, du Ghost Recon, du Assassin's Creed, du Watch Dogs, etc. Une sorte de pattern comme ça. Et en fait, j'ai joué quand même beaucoup. Hein, Assassin's Creed. J'ai pas beaucoup dormi, du coup. Enfin, il m'a un peu foutu en l'air. Je sais pas quoi faire, mais bon, bref. Je trouve... que Assassin's Creed Origins, c'est une sorte de conclusion, pas de conclusion définitive, hein, mais en fait, comme si Ubisoft avait trouvé... Depuis quelques années, Ubisoft allait dans une direction. Et j'ai l'impression que l'objectif, c'était Assassin's Creed Origins. Ils ne le savaient peut-être pas eux-mêmes, mais que finalement, dans ce Assassin's Creed, on retrouve... Bah, de l'Assassin's Creed, évidemment. On retrouve du Watch Dogs. On retrouve du Far Cry, énormément de Far Cry. On retrouve du Ghost Recon, avec l'oiseau, notamment, hein, on se souvient du drone, hein, du dernier. On retrouve, même peut-être avec le rapport au combat, c'est pas le même gameplay de combat, mais avec For Honor, qui a changé un peu le rapport au combat, là, le rapport au combat est plus brutal, et plus... Finalement, on a l'impression que voilà, tous les chemins d'Ubisoft mènent à Assassin's Creed Origins, en fait. Et que là, ils sont en train de dire ouais, « Ok, vous vous foutez de notre gueule depuis quelques années, mais regardez, on avait un truc quand même. » On arrive à un jeu qui tabasse, on arrive à peut-être, voilà, on avait raison. Bon, peut-être que les jeux, eux, n'avaient pas raison, parce que tous les jeux n'étaient pas bons, mais on avait raison, on peut faire un truc comme ça.
Puis d'un côté, on a depuis 10 ans construit un savoir-faire.
Ouais.
On a expérimenté, on a fait des choses, alors plus ou moins, de façon plus ou moins heureuse.
Ils ont expérimenté beaucoup, ils ont aussi souvent peaufiné la recette vraiment en arrondissant les angles et tout, et du coup ils arrivent à ça. Ça me fait penser un petit peu, même si c'est absolument pas le même style de jeu, mais à ce qui a été fait sur la série Rayman, où on a eu des évolutions un peu progressives, on a testé la 3D ça marchait mais sans plus, et puis après on a refait un autre épisode en 3D qui marchait bien, puis on est revenu en 2D, puis on a fait un autre truc, et puis on arrive à Legends, qui est ça, qui est le, en fait, bah ça fait 10 ans qu'on fait des Rayman, voilà. Le Rayman, c'est ça. Bah, carré. Et c'est comme ça. Et je trouve que Origins est un peu ça. C'est un peu... un Assassin's Creed, c'est quoi? Bah, c'est ça.
Après, pour reprendre une expression que j'affectionne des nuls, je trouve que c'est le meilleur du plus bon, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont... Non seulement c'est vraiment le meilleur d'Assassin's Creed qui est repris, retravaillé, repensé, mais ils ont été... chercher des inspirations partout, The Witcher, là récemment j'ai découvert un truc, alors je vais peut-être dire une énormité, une connerie, mais je pense que c'est ça quand même, sur la carte apparaît maintenant des enquêtes de meurtre et qui sont en fait d'autres joueurs qui ont joué, qui sont morts, et donc tu as le pseudo du mec et tu peux retrouver quels sont les PNJ qui ont tué, qui sont donc des gardes, tout. C'est des petites choses comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais comme nous, on incarne une sorte de Zorro local, quoi, qui est censé faire le bien, et ben tout ça, ça marche, quoi.
Il est quoi C'est un Medjay, voilà.
Ouais. C'est toujours pas réussi à retenir ce mot.
Medjay. Le héros s'appelle Bayek, et c'est un Medjay, et c'est... Voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Si je peux faire... quand même une petite critique qui est un truc ce qui est un truc en fait qu'ils ont gardé de tous les épisodes précédents, et ça fait plusieurs épisodes que je me dis il faut abandonner ça une bonne fois pour toutes, c'est l'animus. C'est le concept de revenir dans le présent de temps en temps et qui casse totalement à chaque fois le rythme
là,
des jeux.
Là, on sent très bien qu'ils en ont marre. Hein.
Oui, oui. Mais on sentait qu'ils en avaient marre dans Black Flag déjà.
Le scénario général du présent Assassin's Creed, il avance pas des masses quand même. Hein,
dans Black Flag, je pensais que ce serait la dernière fois qu'ils utiliseraient ce truc-là parce qu'il y avait une sorte de mise en abîme sur. Je vais pas spoiler totalement Black Flag, mais bon, voilà, en gros, vous jouez donc Edward Kenway qui est un pirate, et de temps en temps, on revient dans le présent et on joue un stagiaire dans une boîte de jeux vidéo qui en fait est maléfique et qui essaie de récupérer en proposant des faux jeux vidéo, enfin des expériences ludiques, de récupérer des informations sur les trésors cachés et tout ça.
Oui, il y avait un côté méta qui allait.
Il y avait un côté
là.
Méta, ouais. Et moi je trouvais qu'on était arrivé au bout du truc. Ouais. C'est-à-dire qu'on fallait pas aller plus loin, fallait s'arrêter là et dire en fait à partir de maintenant juste bah ouais, vous pouvez presque même l'assumer scénaristiquement et dire maintenant en fait vous êtes les joueurs et vous êtes les victimes de cette entreprise qui vous vend des jeux. Ce qui aurait été marrant. Mais là, c'est vrai que du coup les retours, c'était déjà le cas dans tous les précédents, j'ai du mal, quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais moi j'y trouve une vertu terrible à ça, c'est que quand tu es dans ces phases de jeu où tu reviens dans le présent, en fait tu te rends compte que vraiment quand t'es Bayek, c'est vraiment génial, quoi. Et ça te permet de faire une coupure, et quand tu reviens dans l'univers, t'es tellement content d'y retourner, et tu te dis c'est vrai que c'est quand même vachement bien. Et alors que c'est le même jeu, enfin, tu vois.
Moi, je trouve que ça. Alors, je suis totalement d'accord, ça n'a aucun intérêt, hein, les phases dans le présent. Mais je trouve que c'est toujours, comment dire, assez intéressant. Par exemple, il y a le pendant les anciens épisodes, c'était la vision de l'aigle pour repérer les objets. Là, c'est activation de la propriété de l'animus. Donc, c'est ce côté. On vous fait jouer à quelque chose qui est déjà numérique entre guillemets. Donc, du coup, en fait, ça intègre l'interface à l'intérieur de l'univers.
Bon, ça. C'était une astuce qui date du premier Assassin's Creed. C'était une astuce pour justifier le fait qu'on jouait quelqu'un dans le passé. Et je trouve que c'est une astuce qui pour le coup est vraiment vraiment émoussée, quoi. Ouais. Qui fonctionne pas terrible au niveau immersion, en tout cas, justement ça.
Alors je sais pas si vous y avez joué, mais moi j'ai réfléchi beaucoup et ça m'a fait beaucoup penser au truc même de monde ouvert, parce qu'on est voilà les très très bons mondes ouverts. T'as cité The Witcher qui fait partie des inspirations de cet Assassin's Creed Origins. Les très bons mondes ouverts, ça marque. Cette année on en a eu deux qui sont diamétralement opposés et tout aussi bons, j'ai l'impression. Je peux parler du Zelda Breath of the Wild et de cet Assassin's Creed Origins. Et j'ai l'impression que en 2017, voilà, on sait que le système de monde ouvert est un gameplay qui est évolutif, où il y a des pistes, et là on a l'impression de deux embranchements quasiment différents, qui est une sorte de monde ouvert émergent où les choses arrivent d'elles-mêmes, où on peut se perdre, qui est le Zelda, et le monde ouvert dirigé qui est cet Assassin's Creed. Ces deux visions comme ça
qui est un peu le cas de The Witcher aussi d'ailleurs, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a, alors, pour le coup, le plus nouveau dans un sens, c'est Zelda, oui. qui a justement cassé ce truc-là et qui a pris un risque, hein, d'ailleurs, parce que, on en a parlé des dizaines de fois, hein, de Breath of the Wild, mais c'était un vrai risque à l'époque de dire on va faire du monde ouvert vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'on va même limite laisser la possibilité aux joueurs de casser le jeu presque, d'inventer ses propres façons d'avancer. Donc c'est risqué. Ouais, moi aussi. Hein, par le gros château au milieu.
Et c'est vrai que j'adore. Hein,
c'est vrai que du coup revenir à un Assassin's Creed, moi c'était un peu ma crainte en fait, c'est que je m'étais dit est-ce que c'était le premier jeu en monde ouvert auquel je rejouais après Breath of the Wild, et je me suis dit est-ce que Breath of the Wild m'a pas gâché les autres mondes ouverts, tu vois, sur le côté, est-ce que j'ai pas en avoir marre qu'on me dirige et qu'on me dise d'aller faire telle mission machin, et en fait non, c'est-à-dire qu'en fait l'univers, j'arrive pas tellement à déterminer si c'est lié au choix d'époque de l'Égypte antique ou pas, mais en tout cas l'univers est vraiment vraiment agréable et sympa, et surtout assez original, parce que c'est une période que mine de rien on connaît pas vraiment, donc on découvre quand même beaucoup de choses. Je pense pas qu'il y ait d'inégalité de départ entre des joueurs par rapport à ça. Mais en plus c'est un monde qui ouvre des vraies possibilités, un peu comme les mondes de Far Cry, quoi, qui sont des vrais espaces ouverts avec qui se permettent d'avoir des endroits où il n'y a rien, qui se permettent d'avoir des endroits où au contraire c'est extrêmement concentré, comme l'Égypte, quoi.
D'ailleurs, alors là encore une fois où je trouve que ce jeu est vraiment bon, ce que tu dis dans les mondes ouverts, moi j'ai cette passion d'explorer les endroits où il n'y a rien. Je l'ai fait dans Horizon Zero Dawn, par exemple. Je me suis perdu dans la montagne et j'ai essayé d'escalader des endroits où il n'y avait rien. Mais vraiment, à tel point, dans Horizon, il y a un truc qui est rigolo, c'est-à-dire que tu escalades, tu arrives dans une zone où tu ne peux plus aller parce que, voilà. Et il te le dit. Il te dit, attention, si tu continues, je te renvoie à ta dernière sauvegarde. Je te préviens. Et toi, tu continues parce que forcément, tu dis la machine. Et la machine te renvoie par l'esprit de contradiction. Et là, donc, ils ont fait un truc qui est fabuleux, c'est-à-dire sur la carte, enfin, fabuleux. Il y a un mode photo. Ok, super.
Je suis drogué.
C'est un mode photo. Et en fait, sur ta propre carte, il y a des photos d'autres joueurs. Et sur
qui sont vachement moins belles que les miennes. Je comprends pas pourquoi.
Et pourquoi elles sont en avance, alors?
Oui, exactement. Moi, je fais attention et tout. Je prends des beaux paysages et tout.
Mais
ça.
Mais sur ces zones inexplorées, là, où tu veux aller explorer, je trouve ça génial d'avoir un aperçu, de te dire, tiens, ça donne un intérêt, pour peu qu'on ait la passion de la photo. Mais ça, c'est pareil. C'est le fait de pouvoir partager sa photo. C'est des détails qui font que
Je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est que moi, j'ai une théorie depuis quelques années. Sur les Assassin's Creed, qui est que en fait la série est moins un jeu vidéo d'action, d'aventure, que un simulateur de tourisme temporel. C'est-à-dire qu'il y a un côté le contrat, comme on disait tout à l'heure pour le Wolfenstein, le contrat c'est qu'on bute des nazis. Là, le contrat c'est je vous envoie dans une époque et c'est reproduit le plus fidèlement possible en termes d'ambiance et tout, pas forcément en termes historiques, mais au moins en termes de reproduction de ce que c'était que vivre à l'époque. Et ben allez-y, quoi, enfin explorer et tout. Et le mode photo, je trouve que c'est l'aboutissement ultime de ça, quoi. C'est le côté bientôt on fera des soirées diapo de alors ça c'est quand j'étais dans le désert, ça c'est quand j'étais à Alexandrie, là j'ai battu un crocodile, enfin voilà. Et c'est ça, c'est qu'au lieu de partir en vacances, on jouera à Assassin's Creed Origins.
D'ailleurs, ouais, le truc c'est sur les animaux sauvages, c'est peut-être le rare point qui a fini par me gêner, mais tu vois, j'ai aucune envie de buter des hippopotames. Sauf que, quand ils te foncent dessus, tu te retrouves à faire Et moi, j'aime pas. J'aime pas buter des hippopotames, je suis désolé. Ou pareil, des lions. Tu vois, tu butes des lions, des léopards ou des guépards, je ne sais pas.
C'est Far Cry déjà, enfin, pour moi, en tout cas. C'est vraiment un truc perso. Hein.
Ah non, moi, je me fais engueuler par ma meuf. C'est systématique. Ouais, non, mais je ne touche pas aux animaux.
Désolé, mon armure, j'ai besoin de...
J'habite à Paris, donc j'ai des amis véganes. Je ne peux pas jouer avec eux.
Alors, est-ce qu'on peut aborder... Il y a un truc, moi, qui m'a quand même vraiment fâché. Et ouais. C'est le côté magasin. il y a dans les menus, alors il faut aller chercher tout petit peu, il y a ce truc de pouvoir acheter, alors c'est pas que de la cosmétique, hein, c'est pas qu'un vêtement.
Ouais, des armes, des légendaires.
Et ils appellent ça clairement d'ailleurs « time saver ». Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de faire monter ton personnage en faisant des quêtes, etc.
Mais
alors là, c'est pareil, peut-être mon côté un peu parano. C'est-à-dire que on n'est pas du tout. C'est pas comme For Honor, quoi, où il y avait une polémique où on avait dit si on voulait passer tout le temps dans le jeu pour ne pas acheter, il faudrait une vie complète. Là, non, pas du tout, loin de là. Mais je sens ça comme un espèce de test. On prend la température et pour faire du. En fait, en gros, c'est de dire on fait du contenu payant. Sur le mode un peu du free-to-play, hein, je dis pas de bêtises. Et ce qui me gêne, c'est que c'est pas du tout la philosophie du jeu. C'est-à-dire qu'on a ce menu-là qui est là juste pour faire rentrer de l'argent, et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, si on a envie de s'acheter une skin et tout, mais ce qui me gêne, c'est que c'est vraiment pas dans l'esprit du jeu. Et du coup, je me dis, on va vers quoi, en fait, tu vois, tout simplement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on me dise, y ait des quêtes qui soient payantes, et puis, est-ce que...
Ça s'appelle les DLC.
Ouais. Ouais, mais
c'est dans le jeu, dans le jeu.
Tu vois, au sein même du jeu, en fait, je trouve ça insidieux et tout ce qui est sur ce mode-là de dire finalement, c'est pas grave. Ouais. En fait, c'est pas grave et puis on gagne un peu de terrain et jusqu'où on va. Et
il y a des tentatives, ouais.
Ouais, j'aime
ça. Je trouve que c'est idiot dans un jeu, surtout dans un jeu solo, enfin, tu vois, d'accélérer ta propre expérience de jeu alors que finalement, on gagne des niveaux. Enfin voilà, en plus, il est pas avare, hein. En armes.
Tu peux avancer assez rapidement, ouais. Enfin, il y a quand même assez peu
de. Dès que tu lootes, tu lootes des armes de ton niveau. Moi, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce jeu et que je trouve encore une fois dans les choix. De game design assez intelligent, c'est que je parlais de mon ouvert dirigiste tout à l'heure, et en fait c'est un truc hyper classique, c'est, je veux dire, il y a la quête principale, des quêtes secondaires, une interface hyper classique, du leveling, du crafting, des magasins, des machins, on vend des trucs, tout en fait. Mais c'est je trouve qu'ils ont réussi à le rendre quasi invisible parce que c'est tellement connu, c'est tellement intégré dans la propre culture de joueur que en fait ils ont intégré des réflexes de gamer. C'est-à-dire on est de l'ordre de ce type d'interface, ce type de gameplay, ce type de choses comme ça. C'est intégré dans notre subconscient et on le voit même plus. Et en fait du coup on a l'impression d'être libre dans cette contrainte de game design.
Et parce que c'est fait de façon extrêmement pro aussi. C'est bête à dire, hein, mais mine de rien faire un jeu. C'est aussi savoir créer une interface, savoir faire progresser son joueur en lui donnant l'impression qu'il progresse tout seul et qu'il a tout compris. Enfin, on y revient, hein, mais il y a une vraie expérience qui a été notamment faite sur Assassin's Creed, mais sur plein d'autres jeux. Il y a une expérience justement de comment faire pour que le joueur tout de suite s'y retrouve dans un truc qui pourrait sur le papier être extrêmement complexe. C'est-à-dire que quand on voit toutes les possibilités sur Origins, il y a quand même... Il y a beaucoup de choses et c'est un peu. Ça fait un peu peur au début, quoi. Moi, ça m'a fait beaucoup ça sur Black Flag, tu vois.
Tu vois, pour aller dans ton sens, je trouve que sur celui-là en particulier, ils ont vraiment trouvé la juste mesure entre. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Oui. C'est-à-dire que quand tu regardes, finalement, on peut battre ces deux boutons. Après, il y a en plus une parade et une esquive. Donc, quatre boutons. Alors tu dis oui, mais c'est complètement con, c'est trop simple. Sauf que dans ton arbre de compétences, en fait, tu peux débloquer. C'est vrai. Mais non, mais est-ce que tu comprends pas comment ça se gère, en fait. Et dans l'arbre de compétences, ils ont réussi à... Donc plus tu joues, plus tu peux débloquer certaines compétences qui vont rendre les combats où tu... Si tu appuies sur l'esquive à tel bon moment, et du coup, tu enrichis ton vocabulaire de combat, mais tu as déjà tout l'apprentissage avant. Ce qui fait que ça se fait d'une façon hyper naturelle. Et ce que tu dis, le sentiment de liberté n'est jamais remis en question. Et c'est fort.
Moi, je trouve que c'est une vraie performance. Je trouve que, en tout cas, pour y avoir joué quand même quelques bonnes dizaines d'heures pour l'instant, je ne suis pas arrivé au bout. Hein, mais je suis vraiment tombé dedans d'une manière très inattendue. Je trouve que c'est... c'est au-delà d'Assassin's Creed 2. Enfin, il propose une sorte de finalité.
Donc, moi, je sais que je préfère toujours. Mes préférés, c'est le 2 et le Black Flag. Mais me rends compte qu'il y a une énorme part de nostalgie, en fait. C'est que je pense que si je reprenais le 2 là maintenant, après avoir joué à Origins,
il faut savoir que c'est l'équipe de Black Flag, hein, Origins. C'est Jean Guédon qui a la direction et
Black Flag était déjà pas une révolution, mais était déjà quand même une façon de bien casser les codes. Du Assassin's Creed, déjà il n'y avait plus de bâtiments quasiment plus de bâtiments à escalader puisqu'on était sur des îles par définition, donc c'était un peu compliqué.
D'ailleurs, il y a du combat naval.
Oui.
Ouais. Ah. Qui arrive au bout d'un moment aussi d'une manière inattendue, je trouve que voilà. C'est top. Assassin's Creed. Alors, je vous avoue, j'espérais, mais on n'avait pas plus partagé nos impressions que ça. J'espérais avoir à côté de moi au moins une personne un peu plus critique ou qui aurait dit carrément du mal et tout ça, mais alors, non.
Ouais,
mais
non, moi je te l'ai dit, hein, il y a des bugs, il y a des choses qui sont.
Tu ne te forces pas non plus.
Je me force pas, mais quand tu joues, parce qu'il y a des gens qui vont avoir ces expériences-là, qui vont dire ouais, mais c'est tous des vendus ou quoi. Moi, ça m'est arrivé. Je l'ai en saisie en vidéo. Tu lances une quête et à partir du moment où tu lances une quête ou que tu accomplis une quête, même si tu es en plein milieu d'une action où il y a des gens partout, tout s'arrête. Et les gens reprennent leur vie après comme si de rien n'était. Ça, c'est très Assassin's Creed.
C'est quasiment tous les jeux en monde ouvert sont un peu comme ça. Ouais,
mais moi, j'ai eu un dialogue avec un personnage non-joueur d'une quête qui était à cheval, en l'air, sans cheval, et qui me parlait d'une façon tout à fait naturelle de sa famille, de trucs. C'est assez délectable, mais il y a des bugs et c'est inévitable dans ce genre de monde. Enfin, tu vois, on n'est pas dans une perfection totale, mais c'est un jeu absolument génial.
Oui. Voilà, donc Assassin's Creed Origins sur toutes les plateformes modernes.
Sauf Switch.
Ah oui, ça c'est un point où ça m'a rendu triste. En fait,
c'est vrai que ça aurait été sympa. Ouais.
Mais bon, quand on voit le résultat aussi, on imagine que c'est un peu compliqué de porter ça sur Switch. Merci à tous les deux, Olivier et Mathias, hein, d'être passés. J'espère que vous reviendrez dans Silence on Joue. Évidemment. Alors par contre, je ne vous ai absolument pas prévenu du rituel final. Vous êtes au courant, je ne sais pas. Mais parce qu'il y a la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Mathias?
Hyper simple.
Je
regarde des séries.
Et ben laquelle?
En ce moment?
Ben oui.
Alors, inévitable, The Walking Dead. Je viens de finir The Deuce. Absolument fabuleux.
C'est quoi ça?
C'est la nouvelle série de David Simon et George Pelecanos.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Qui ont fait The Wire, qui ont fait Tremer.
Ah, j'ai pas vu encore.
Incroyable. Ouais. C'est une plongée, c'est la naissance du cinéma porno à New York. Ça a été une claque terrible. Je regarde plein de choses, de Last Man on Earth, n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, tant que c'est une série télé, ça me plaît.
C'est pas dur.
Il y a des choix. Moi c'est un peu tout en fait. Je regarde pas mal de séries télé aussi. C'est vrai qu'en ce moment je suis sur American Gods que je regarde.
Mais c'est bien ça ou pas?
Alors je regarde à dose homéopathique parce que les épisodes sont assez longs et que c'est assez touffu quoi comme truc. C'est qu'il faut vraiment se lancer dedans et qu'en plus je suis fan du bouquin, c'est-à-dire que j'adore ce livre et donc j'ai super peur, donc j'avance vraiment par petits pas dans le truc et jusqu'ici ça va, j'ai pas eu une impression de trahison ni rien, mais
c'est raccord avec le jeu Assassin's Creed Origins, puisqu'il y a les passages vie-mort d'American Gods.
T'as quelques vieux dieux aussi, d'American Gods et tout. Et sinon, depuis un an, je lis beaucoup de comics indépendants américains, et de comics aussi plus globaux, donc les derniers Batman qui sont arrivés chez nous. J'ai pas encore lu le Marini, voilà. Je suis pas mal sur Saga, qui est une série exceptionnelle.
J'ai plein de numéros en retard.
Voilà, je suis à jour. Je trépigne en attendant le prochain. Et Saga, j'ai fini Revival il y a pas longtemps aussi, qui est très sympa.
Gardez-en pour les prochaines émissions.
Mais t'inquiète, j'en trouverai d'autres. Revival, c'est pas mal aussi, c'est un polar dans un monde où les morts sont revenus à la vie. Et en fait, on enquête sur la mort d'un des personnages qui, du coup, est revenu à la vie dans la foulée, mais qui a perdu la mémoire et qui se souvient plus qui l'a tué. Ah. Donc, qui enquête sur sa propre mort.
Très bien. Enfin, voilà. Alors moi je vais parler juste très rapidement parce qu'en plus on explose les délais. Je pense que Alex de No Life il doit avoir fait une syncope parce que je l'entends pas. Juste en fait moi j'ai découvert le truc qui est hyper connu parce que ça fait des records d'audience en France. Mais vu que tu parlais de série, c'est une série française. Et ça fait vraiment des records d'audience. Je n'en avais jamais vu et on m'a mis devant et j'ai trouvé ça absolument génial. Sauf la fin qui est très série française. Ça s'appelle Capitaine Marlowe. Vous connaissiez vous ou pas?
De nom, j'ai pas regardé.
Pareil.
C'est incroyable avec cette capitaine de gendarmerie ch'ti qui est. Je me rappelle plus là le nom de l'actrice qui est vraiment brillante. C'est très étrange parce que j'ai vu un épisode, parce que en plus ça dure pratiquement 2 heures, les séries françaises. Et tout l'épisode est vachement bien. Et la fin, c'est une fin de série française. T'as juste l'impression de voir une fin de Navarro ou un truc comme ça. Donc c'est très bizarre. Mais tout le développement et tout ça est magnifique. Il y a un côté presque Columbo à la française, en plus hardcore. Un côté Columbo France Insoumise. Enfin, c'est un petit peu étrange. Voilà. Ça s'appelle Capitaine Marlowe. Vous connaissez sans doute déjà. Je découvre la roue, mais ça m'arrive très souvent. Merci à tous les deux. Désolé parce qu'on a fait trop long. Et on se retrouve la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.